Lisons quelques versets du psaume 44. Du psaume 44, les derniers versets, je commence par le verset 24. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, ô Seigneur? Réveille-toi, ne rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Verset 25. Et ne te souviens-tu pas de notre misère et de notre affliction? Verset 26. Ah, notre âme est courbée jusqu'à la poussière. Notre corps est là, collé à la terre. Verset 27. Lève-toi, viens à notre secours et délivre-nous à cause de ta grâce. Puisse le Seigneur bénir ces paroles d'une manière particulière. Nous savons que dans les psaumes, certaines prières ont été faites, prononcées et écrites par l'Esprit depuis les profondeurs du cœur. Ici, il a été exprimé, réveille-toi, pourquoi dors-tu au Seigneur? Nous savons que le gardien d'Israël dort et ne sommeille pas. Dieu n'a pas besoin de se réveiller d'abord, Dieu ne peut même pas dormir. Mais le psalmiste était dans une profonde détresse. Et il a exprimé cette détresse à Dieu. Et je pense que nous comprenons bien ces paroles. Et que nous disons, Seigneur, lève-toi et étends ton bras puissant. Fais de grands miracles et des signes. Témoigne de toi comme étant le vivant, éternel, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Réveille-toi, pourquoi dors-tu au Seigneur? Et le Seigneur répond, je ne dors pas, je suis le gardien d'Israël. Je ne dors pas, je ne sommeille pas. Le Seigneur nous crie à toi et à moi de nous réveiller, de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous et de lui faire une confiance nouvelle et totale. De lui faire confiance de manière nouvelle et totale. Verset 25 encore. Pourquoi caches-tu ta face? Ne te souviens-tu pas de notre misère et de notre détresse? Dieu voit. Dieu entend. Mais il ne répond pas quand nous le voulons, mais quand il le veut. Une chose est sûre. Jamais trop tard. Pour nous, il peut parfois sembler ou paraître trop tard, mais pour Dieu, c'est toujours le bon moment. Et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui exprimer notre confiance au Seigneur de manière toute nouvelle et dire, ô Dieu, nous croyons ce que tu as dit, à savoir, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te manquerai pas. Je serai avec vous, oui, tous les jours, jusqu'à la fin de la terre, jusqu'à la fin du monde. Pardon. Nous sommes maintenant arrivés à la fin des temps et nous avons le désir que, comme au commencement, le Seigneur soit tout à fait vivant et présent parmi son peuple à cause de sa parole, à cause de son saint nom. Verset 27, « Lève-toi, viens à notre secours. » Verset 27, « Et délivre-nous à cause de ta grâce. » Que Dieu puisse nous montrer cet après-midi et nous le faire grandir, ce que signifie d'avoir reçu la grâce de Dieu et d'avoir été racheté. Puissions-nous, en tant que rachetés, voir et vivre la rédemption de manière totalement nouvelle à la lumière de Dieu. En tant que ceux qui ont reçu grâce, nous devrions reconnaître par la grâce de Dieu ce que cela signifie d'avoir reçu la grâce de Dieu. Verset 27, « Lève-toi, viens à notre aide et délivre-nous à cause de ta grâce. » Ensemble, nous allons maintenant demander de tout cœur à Dieu de nous bénir et de nous parler cet après-midi. Nous nous levons pour cela. Père Céleste, nous venons en ta présence dans le nom précieux et saint de Jésus, sous l'aspersion et la couverture du sang de l'agneau qui a coulé sur la croix à Golgotha. Seigneur, nous sommes réunis ici en ton nom pour écouter ta parole, nous soumettre à la discipline et à la direction de ton esprit et te demander de nous parler, d'agir en nous et de nous préparer pour le jour du retour de Jésus-Christ. Qu'il se produise pendant ce service divin quelque chose qui produise des fruits éternel. Ô Dieu, des fruits pour l'éternité. Ô Dieu, que ta grâce et ta puissance se manifestent à nouveau. Nous te demandons de bénir cette heure. Nous nous plaçons tous et tout ce service divin consciemment sous la couverture de ton sang. Et te demandons d'être conduit par ton Saint-Esprit. Seigneur, reste avec nous, car le soir est tombé et le jour de grâce s'est incliné. Parle avec nous plus clairement et plus distinctement que jamais. Agis plus profondément et plus fondamentalement que jusqu'à présent au Seigneur. Que ta parole et ton esprit puissent pénétrer au plus profond et au plus intime de notre âme. Seigneur, nous te croyons et nous te faisons confiance au nom de Jésus. Amen. Amen. Remercié soit le Seigneur de ce que nous croyons et savons que tout est possible parce que Jésus est ici. Il a fait la promesse et il est présent pour la tenir car il est fidèle à sa parole. Il dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit de toutes les manières possibles. Aujourd'hui, nous allons aborder très brièvement les événements qui se produisent autour de nous et auxquels nous ne pouvons pas rester insensibles, car ils constituent un accomplissement des Saintes Écritures. Je voudrais commencer par lire le verset 12 du chapitre 17. Donc, du prophète Ésaïe, le chapitre 17, le verset 12. Ésaïe 17, verset 12. Malheur au tumulte d'une multitude de peuples qui mugissent comme le mugissement de la mer et un tumulte de nations qui grondent comme des eaux puissantes en révolte. Le verset 13. Oui, les nations grondent comme des eaux puissantes, mais ils les menacent en les réprimandant. Alors, elles s'enfuient au loin et sont chassées comme la balle sur la montagne devant le vent et comme la poussière tourbillonnante devant la tempête. Verset 14. Au temps du soir, l'épouvante arrive. Mais avant le matin, ils sont perdus. Tel est le sort de ceux qui nous dépouillent et tel est le sort de ceux qui nous pillent. Je voulais surtout mettre l'accent sur le fait que les nations sont agitées comme la mer, qu'elles se déchaînent et que les vagues sont toujours plus hautes. Si nous lisons l'Apocalypse, en particulier le chapitre 13, une bête sort de la mer. Nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais les peuples de cette terre sont comparés à la mer. Nous vivons une période très grave, très courte, mais d'une importance capitale pour l'histoire du monde, pour l'Église et aussi pour le peuple d'Israël. Dans cette mer de peuples agités, il n'y aura pas de calme tant que Dieu lui-même n'aura pas créé le calme. Et il n'y aura pas de paix tant que lui-même, qui est notre paix, n'aura pas instauré le règne de la paix. Il existe des mouvements pacifistes qui ont même pris la parole du prophète Ésaïe, chapitre 2, et le mot d'ordre est les épées en soc de charrue. Derrière ce mouvement, il y a des gens qui manifestent pour la paix sans être eux-mêmes en paix avec Dieu. Tout mouvement qui ne vient pas de Dieu est voué à l'échec, même s'il a les meilleures intentions du monde. Nous lisons ici, oui, les foules des nations grondent comme des eaux puissantes grondent. Je ne peux pas m'empêcher de faire ici cette remarque. Nous sommes dans ce beau au plus beau pays de la terre. Nous ne sommes pas entourés d'eau, mais de montagnes. Mais ceux qui ont déjà traversé la mer, l'Atlantique, et qui ont entendu l'énorme grondement comme un rugissement, peuvent s'en faire une idée. Pour la plupart d'entre vous, ce sera certainement une pensée qui vous effleurera, mais qui n'aura pas trop à vous dire. Le grondement de la mer est un bruit et un grondement assourdissant que l'on ne peut guère supporter longtemps, à moins de s'y être peu à peu habitué. Et il semble que ce soit le cas, plus ça dure, plus les tempêtes sont grandes, plus on s'agite, plus les vagues battent haut. Ce qui me touche encore plus, c'est le peuple d'Israël. Nous sommes intimement liés à ce peuple. Et quand nous pensons qu'ils doivent rendre une terre qu'ils ont si difficilement conquise, qu'ils ont foulée en versant beaucoup de sang, et qu'ils doivent ensuite la rendre par un accord de Camp David, c'est très dur. Mais je voudrais vous montrer très brièvement, puisque j'ai emprunté deux magazines américains aujourd'hui, que cette partie ne fait pas partie de la terre promise. Et si elle n'appartient pas à la terre promise, alors la restitution n'a pas causé de grand malheur. Dieu n'a alors voulu que faire en sorte que les frontières soient finalement telles qu'il les a fixées et écrites dans ses paroles. J'ai ici la carte devant moi et vous pouvez certainement le voir à peu près bien de là-bas. Ici, la mer Rouge. Puis ça monte ici, puis le fleuve Jourdain ici, la mer de Galilée ou bien le lac de Galilée, la Jordanie, Israël. Et cette partie sera rendue. S'il vous plaît, regardez. Lorsque le peuple d'Israël a migré de l'Égypte vers le pays de Canaan, ils n'ont pas marché ici par le canal de Suez à travers cette partie pour être immédiatement vu de la partie ouest du Jourdain, mais ils ont traversé la mer Rouge et sont montés ici, puis sont passés du côté est du Jourdain au côté ouest dans la terre promise. Il ne reste ici que deux tribus et demi, la tribu de Gad, la tribu de Ruben et la demi-tribu de Manassé. Elles se sont installées de ce côté qui appartient maintenant à la Jordanie. Donc, au fond, il n'y a pas eu de mal direct, même si c'est très difficile. Ce qui m'émeut dans ce deuxième enregistrement, c'est une ou trois photos de Jérusalem. L'une montre des musulmans allongés face contre terre, le visage tourné vers la Mecque en train de prier. L'autre montre des juifs au mur des lamentations, debout, en train de prier. La troisième photo montre des chrétiens descendant la rue depuis le palais d'Hérode, la rue que notre Seigneur a descendue lorsqu'il s'est dirigé vers Golgotha après sa condamnation. Les trois religions sont réunies dans la même ville, toutes prient le même Dieu. La seule question est, à qui Dieu peut-il se révéler de la même manière? Lorsque l'on lit de tels articles que nous ne voulons ni ne pouvons lire ici pour l'instant, mais si l'on s'y plonge un peu, On apprend seulement à apprécier la grâce de Dieu qui nous a vraiment été accordée. Que nous puissions, dans ces derniers temps, classer bibliquement ce que Dieu fait selon sa parole et que nous puissions dire oui à tout ce que Dieu fait. Vous savez, et on pourrait montrer ici d'autres images dans ce secteur de la ville de Jérusalem. Voici une photo qui a été prise du sud-est en direction du mont des Oliviers. On y voit le dôme du rocher, le mont Moria, sur lequel Abraham a sacrifié Isaac. Au bout du mont du temple, sur le côté, se trouve la mosquée à Al-Aqsa, où les Mahométans adorent dans leur troisième plus grand sanctuaire. Tout au bout se trouve le pinacle du temple sur lequel l'ennemi a amené le Seigneur en lui disant « Jette-toi en bas ». Et il ne serait pas loin de la vallée du Cédron, ou même il serait tombé dans la vallée du Cédron qui descend là-bas, plus bas. Le mont des Oliviers se trouve ici, de l'autre côté. Donc, trois grandes religions prient dans la même ville. Elles prient chacune à leur manière. Mais je vous le dis aujourd'hui, Dieu ne fera pas ce que les Mahométans lui demandent. Ce que les Mahométans, pardon, lui demandent. Il ne fera pas ce que les Juifs lui demandent. Il ne fera pas ce que les chrétiens lui demandent. Car tous prient d'une manière ou d'une autre dans un but égoïste. Mais je peux vous dire une chose. Dieu fera ce qu'il a décidé de faire. Et nous sommes déjà au cœur de cette action divine. Sans que nous le remarquions peut-être individuellement. Mais comme les choses peuvent vite tourner sans que nous le remarquions. Qui avait annoncé l'affaire de Sarajevo en lien avec la Première Guerre mondiale? Qui avait annoncé un Munich ou des accords de Munich qui ont conduit à la Seconde Guerre mondiale? Qui va annoncer maintenant ces choses? Tout à coup, les choses sont là. Et nous ne savons pas qui sera le prochain, d'une manière ou d'une autre, et ce qui pourrait se passer ensuite. Et quand j'y pense, vu de l'extérieur, le choix d'Adolphe, le dernier, pardon, et le terrible, était un choix légitime. Et qu'en est-il advenu? D'autre part, j'ai demandé personnellement à frère Branham ce qui s'était passé. Et il m'a dit textuellement, frère Franck, Dieu ne demandera pas des comptes à toute une nation, mais seulement à ceux qui se sont rendus coupables. Un homme avec quelques-uns autour de lui porte soudain la responsabilité de plus de 55 millions de personnes qui, en très peu de temps, ont laissé leur vie de telle ou telle manière. Eh bien, ce sont certaines contractions qui s'abattent sur cette terre. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui, mais nous devrons effectivement encore parcourir l'Apocalypse en profondeur pour nous montrer l'emplacement et l'évolution, à quel point elle est avancée à l'aide de la prophétie biblique. Il est de la plus haute importance de ne pas seulement être croyant, mais d'avoir une orientation spirituelle. Vous savez que si une cellule de crise se réunit ici ou là, c'est qu'il y a une situation d'urgence quelconque. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reconnu et presque compris cette situation d'urgence spirituelle. C'est à dessein que j'ai prononcé le mot « presque », car je ne suis pas tout à fait sûr que moi ou nous tous ayons pleinement compris et saisi la gravité de la situation actuelle. Par la grâce de Dieu, de notre Dieu, nous avons reçu la compréhension par la révélation prophétique de la parole et par le ministère unique de frère Branham de l'histoire du salut et de ce que Dieu fait maintenant. Et pourtant, il peut arriver que nous l'ayons entendu et que nous l'entendions encore et encore et que cela devienne une habitude pour nous. Cela ne nous touche plus au plus profond de notre cœur. Nous le laissons passer et en prenons peut-être connaissance de manière marginale. Bien-aimé, la fin de toute chose est proche. Et les critiques peuvent dire, Pierre a déjà écrit cela à l'époque dans sa lettre au chapitre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. Et près de 2000 ans se sont écoulés et rien n'est encore arrivé. Il est écrit ici, dans 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc prudents et sobres pour la prière. Au verset 8, mais surtout, ayez un amour profond les uns pour les autres, car l'amour couvre la multitude des péchés. L'Esprit de Dieu a fait écrire par les prophètes de l'Ancien Testament et par les apôtres du Nouveau Testament tout ce qui se passerait au cours du temps de grâce, oui, jusqu'à la fin, jusqu'à l'intérieur et à travers le royaume millénaire, oui, jusqu'au jugement devant le trône blanc. Tout a été mis par écrit, mais s'accomplit au moment précis que Dieu a déjà fixé pour cela. Cette parole était autrefois un futur lointain. Elle est aujourd'hui le présent. La fin de toute chose est proche. Il n'y a pas de délai ni d'échappatoire. Cela ira d'un conflit à l'autre, d'une révolte à l'autre, d'une détresse à l'autre. Et si elle s'est un peu apaisée ici, elle éclatera de nouveau là-bas. Et comme nous l'avons lu, les peuples grondent comme d'énormes masses d'eau grondent. Mais le Seigneur les menace, mais eux sont dans la tourmente. Tout est complètement bouleversé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la prédication dans laquelle frère Branham parle du fait que le Seigneur a créé le vent pour rendre la chaleur du soleil et ses effets plus supportables pour les hommes. Mais ensuite, il a dit, si le diable entre dans ce vent, alors il y aura une violente tempête. Et alors les maisons seront renversées et les arbres seront abattus. Dieu fait une chose et le diable y entre et provoque un grand malheur. Le diable n'est pas un créateur. Dieu seul est créateur. Mais il prend des choses que Dieu a créées et s'en sert. Et nous en sommes encore tristes aujourd'hui. Parfois, il se sert même des croyants. Et c'est la chose la plus triste de toutes. Si le diable ne fait que remuer et agiter la mer, eh bien, qu'il le fasse. Mais s'il fait gronder les tempêtes, tant pis, nous avons réussi à nous en protéger jusqu'à présent. Mais s'il abuse des croyants, et là encore, je choisis ce mot à dessein, abuse des croyants. Cela fait très mal. Les enfants de Dieu sont destinés à être bénis et utilisés par Dieu et à être une bénédiction pour les autres. Et c'est à cela que nous devons veiller en permanence, à ce que nous soyons de plus en plus utilisés par Dieu lui-même, bénis par lui, avec lui et sa parole, entre nous, à ce que tout puisse être harmonisé par Dieu et accordé entre nous afin qu'il puisse se glorifier et confirmer sa parole. À quoi cela nous servirait-il de voir ce qui se passe en Israël et parmi les peuples? Et il y en a bien quelques-uns qui lisent la parole prophétique et à force de recherche, ils peuvent voir et aussi interpréter certaines choses. Mais ce que Dieu nous a donné en tant que son peuple, ils ne l'entendent pas, ils ne le veulent pas, ils le rejettent. L'homme qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu. Il accepte tout ce que Dieu lui donne et écoute ce que Dieu dit. Les personnes qui veulent interpréter tout le reste, qui peuvent, pardon, interpréter tout le reste, mais qui ne reçoivent pas ce que Dieu a à leur donner, ressemblent à celles auxquelles le Seigneur s'est adressé autrefois et leur a dit, vous pouvez interpréter la forme du ciel, vous savez s'il y aura de la pluie ou du beau temps, mais vous ne comprenez pas les signes des temps. Matthieu 16, verset 3. Le Seigneur parle des signes des temps et dit, quand vous verrez toutes ces choses commencer à se produire, relevez la tête, sachant que votre rédemption est proche. Luc 21, verset 28. Toutes les choses ont un commencement et elles ont aussi une fin. La fin des temps a un début et la fin des temps aura une fin. Le temps de la grâce a commencé et il finira aussi. Nous savons, sur la base de la parole de Dieu, comment tout se terminera. Permettez-moi d'insister encore sur ce chapitre 17 du prophète Ésaïe et plus précisément sur ce qui est écrit au verset 14. Au temps du soir, il y aura de la terreur. Mais avant le matin, ils sont perdus. Tel est le sort de ceux qui nous dépouillent et tel est le sort de ceux qui nous pillent. Ouvrons Ésaïe chapitre 21 et lisons ici le verset 11. Ésaïe 21, verset 11. De Séir, on me crie, sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Verset 12, la sentinelle répond. Le matin vient, mais il fait encore nuit. Si vous voulez en savoir plus, revenez. une autre fois et demander. Cette dernière partie de la parole s'applique à nous dans ce temps. Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Et je pense ici au texte de la prédication que Frère Branham m'a donné le 30 décembre 1962. Et il a pris cette parole comme son thème ou son texte. Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Et il a donné à cet ensemble le titre Quelle heure est-il ou quel temps il fait? Et nous savons ce qui s'est passé depuis lors. Je me réfère à la fin décembre 1962. Puis en février, il y a eu cette chose énorme et il lui a été dit, va à Jeffersonville, car l'ouverture des 7 sceaux va se produire. Sentinelle, quelle heure est-il dans la nuit? Si vous voulez en savoir plus, revenez une autre fois et demandez. Nous voulons en savoir plus. Nous voulons savoir de quoi il s'agit et c'est pourquoi nous nous réunissons. Et nous ne nous demandons pas à nous-mêmes ou à d'autres, nous demandons à Dieu et Dieu nous donne la réponse. J'ose dire, il nous l'a déjà donnée. Elle est prête. Nous pouvons être de ceux qui savent que la nuit est tombée, que le temps du soir est arrivé, et au temps du soir, c'est écrit, la terreur tombera. La parole à laquelle Frère Branham a fait allusion à plusieurs reprises, tirée de Zacharie 14, verset 7, au temps du soir, il y aura de la lumière. Nous l'avons certainement tous vu dans le contexte dans lequel elle se trouve, c'est-à-dire en rapport avec Israël et la source du temple et tout ce qui est ainsi vu et ce qui va arriver. Mais un prophète a vu par l'esprit dans la parole prophétique derrière ce qui se passe et se passera naturellement à Jérusalem, une révélation pour l'Église qui ramène dans l'église dans laquelle tout est restauré, rétabli, dans laquelle Dieu peut se manifester et se manifestera. Et il a donné cette révélation par grâce. Qui d'entre nous aurait osé prendre simplement le verset du prophète Zacharie, l'appliquer l'appliquer au dernier âge de l'église et le proclamer comme l'accomplissement de l'écriture en ce temps? Il fallait un prophète envoyé et confirmé par Dieu pour faire remonter à la surface ces prophéties de l'Ancien Testament et attirer l'attention du peuple de Dieu sur la parole prophétique. Chaque évangéliste peut brandir un grand discours et susciter l'enthousiasme des gens. Mais que se passera-t-il lorsque le dernier enthousiasme de la dernière réunion sera retombé et que le matin éternel se lèvera et que le temps ne sera plus? Que deviendront alors les gens qui se sont contentés d'un enthousiasme et n'ont pas écouté la voix de Dieu dans ce temps? Croyez-moi, toutes les choses que Dieu fait ont un sens et un but. Il se peut que nous fassions certaines choses qui sont absolument inutiles, qui n'impliquent aucun but et qui peuvent même être insensés. Mais tout ce que Dieu fait est bien fait. Cela a un sens, cela a un but. Et c'est justement en ce qui concerne l'Église et la partie de l'histoire du salut que nous pouvons maintenant vivre par grâce, qu'il faut avoir les yeux ouverts, ouvrir les oreilles et le cœur pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Et nous savons que l'Esprit a parlé par les prophètes, car il est dit, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu et parlaient de la part de Dieu. Dieu a parlé par des lèvres humaines et a fait écrire son plan de salut dans sa parole. Parce que nous vivons dans un âge prophétique, cet âge se distingue de tous les âges qui ont existé. Et cela, la plupart des gens ne peuvent pas le comprendre. Autrefois, alors que Jean-Baptiste a apparu, tous les scribes auraient pu dire, Moïse a reçu la révélation de Dieu, voici le temple, voici le lieu très saint, voici le sanctuaire, voici le parvis, lit dans Moïse, tout ce que nous faisons est parfaitement conforme à ce que Dieu a dit. D'après la lettre, tout concordait parfaitement. Mais une nouvelle époque avait commencé. L'histoire du salut commençait à se réaliser. La prophétie prononcée par le prophète Ésaïe au chapitre 40, verset 3, et par le prophète Malachi au chapitre 3, verset 1, commençait à devenir réalité. À ce moment-là, ce qui était valable pour de nombreuses années aboutissait à cet accomplissement prophétique. Car le prophète Daniel avait déjà dit, le sacrifice quotidien sera aboli. Ils auraient dû savoir que lorsque l'agneau de Dieu viendrait, les autres sacrifices ne seraient plus nécessaires. En effet, chaque sacrifice offert a témoigné de la venue de l'agneau de Dieu. À ce moment-là, une situation toute nouvelle est apparue, a planifié une route pour notre Dieu. Que tout ce qui est élevé soit abaissé et que tout ce qui est bas soit élevé. Et c'était l'annonce que les hommes allaient voir la gloire de Dieu. Et que s'est-il passé? L'accomplissement de cette parole était là et les scribes ne le virent pas. Aujourd'hui, et cela peut paraître très dur, tous les cultes, aussi beaux soient-ils, et même si la parole qui est lue est tirée du prophète Ésaïe ou d'un autre prophète, aujourd'hui, tous les cultes où Dieu ne peut pas être présent pour faire connaître la parole révélée par son esprit et pour instruire ainsi les hommes, en conséquence, sont vains. Et le Seigneur a dit autrefois, c'est en vain que vous adorez Dieu, parce que vous avez annoncé des statuts et des commandements d'hommes et que vous avez négligé la parole de Dieu. À quoi servent les chants, les cantiques, des chorales bien rodées? À quoi sert tout ce qui se fait dans un culte si Dieu ne peut pas nous servir personnellement? Et comment Dieu peut-il nous servir? En nous faisant connaître sa parole sa parole promise, et en nous parlant, en nous faisant participer à son programme général, en nous faisant prendre part à tout ce qu'il a décidé de faire pour le faire en ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est ce qui vous est arrivé à tous, mais depuis mon enfance, je peux me rappeler qu'il y avait dans mon cœur et qu'il y a encore aujourd'hui une crainte, un respect pour Dieu et pour sa parole et un désir inexplicable dans mon cœur. Et le Seigneur fait cette promesse. Bénis ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais si il est écrit dans Apocalypse 3, et cela adressé à la dernière église, au dernier âge de l'église, il est dit, tu dis, au dernier âge de l'église, pardon, tu dis, je suis même riche, je suis rassasié, je n'ai plus besoin de rien. Puis vient la réponse du Seigneur, tu es misérable, nu, pauvre, aveugle et nu. C'est ainsi que Dieu voit cet âge de l'Église. Et si nous pensons à l'énorme révélation que le Seigneur a donnée à Frère Branham, j'espère que vous l'avez tous bien lu. En effet, il a vu l'épouse dans une vision. Il a d'abord vu une épouse glorieuse, sans reproche, parfaite. Ensuite, il y en eut de différentes sortes et toutes étaient à blâmer. Et quand elles eurent toutes passé, à la fin, ce fut exactement la même épouse qui était venue la première. Et l'Esprit lui dit, maintenant, dans le dernier âge de l'Église, une épouse sera appelée à sortir comme dans le premier âge de l'Église, sans tache, sans rite, sans reproche, et elle sera placée devant la face de Dieu. Les époques intermédiaires n'étaient pas des passages prophétique. Chacun pouvait alors faire ce qu'il voulait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Du moins, pas dans le royaume de Dieu. On appelle royaume de Dieu beaucoup de choses qui ne sont pas du tout le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu signifie que Dieu lui-même, notre Seigneur, est roi dans son royaume et qu'il peut décider de ce qui doit se passer et de ce qui se passe. Le verset 11, sentinelle, quelle est l'heure de la nuit? Verset 12, Ésaïe 21, la sentinelle répond, le matin vient, mais il fait encore nuit. Si vous voulez en savoir davantage, revenez une autre fois et demandez. Après l'ouverture des sept sceaux, Dieu a donné une réponse à toutes les questions. Et nous devons comprendre que les traditions et les credos n'ont pas été, ne sont pas et ne seront pas la réponse divine, mais que ce qu'il a fait connaître est devenu sa réponse divine et notre absolu aussi. Et c'est ainsi que l'Église du Seigneur, comme sous le ministère de Jean, est appelé à sortir. Et on peut avoir l'impression de suivre un homme. De l'extérieur, tout ressemblait à cela à 100% en ces jours où la voix se faisait entendre là-bas, près du Jourdain. On aurait dit qu'ils suivaient tous Jean-Baptiste. Qu'en était-il en réalité? L'Esprit de Dieu a attiré ces gens et les a amenés là-bas où la parole a été annoncée pour cette heure-là. Rien d'autre que l'Esprit de Dieu n'amènera les hommes en ce moment-là où la parole révélée par Dieu est annoncée. Et nous voyons là l'accomplissement de ce qui est écrit dans Romains 5. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, Romains 8 plutôt, verset 14, sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Où est-ce que l'Esprit de Dieu conduit-il? Là où la parole révélée par l'Esprit peut être entendue. Car l'homme qui est né de nouveau par l'Esprit de Dieu aspire à une nourriture spirituelle donnée au temps convenable, voulue et destinée par Dieu à son peuple. Si vous voulez en savoir plus, revenez une autre fois et demandez. Oh, si seulement ces prophètes avaient vu l'accomplissement de leur prophétie. Mais la Bible dit, ils se sont endormis sans avoir vu ce que Dieu leur avait annoncé. Et ensuite, l'Épître aux Hébreux le résume et dit, ils n'ont pas pu parvenir à la perfection sans nous. L'achèvement de l'Église du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament se fera par la grâce de notre Dieu lors du retour de Jésus-Christ. Nous nous assiérons à la table du Seigneur avec Abraham, Isaac et Jacob et tous les saints de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance et nous louerons ensemble la grâce de notre Dieu. Revenant à la parole selon laquelle les nations mugissent comme des mers, nous lisons la parole bien connue de Luc 21, ici du verset 25. Alors apparaîtront des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Et il y aura sur la terre le désespoir des peuples dans une angoisse perplexe au bruit de la mer et de ses flots. Remarquez comment notre Seigneur cite ici dans le Nouveau Testament la parole prophétique qu'il avait inspirée au prophète Ésaïe. Et il la place dans le temps de la fin en disant, au verset 25, « Alors apparaîtront des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre règnera le désespoir des peuples dans une angoisse perplexe. » Qu'est-ce que c'est? Tout le monde a peur. Une grande puissance craint l'autre grande puissance. Et l'un a peur de l'autre. Et chacun fait peur à l'autre par-dessus le marché. Mais il y a des gens sur la terre qui ont entendu la parole du Seigneur. Ne craignez pas, car il a plu au Père de donner le royaume aux petits troupeaux. Luc 12, verset 32. Nous ne craignons pas, mais nous levons nos têtes dans la foi, dans la certitude que notre rédemption corporelle est proche. Loin de nous l'idée de nous réjouir lorsque les tremblements de terre, les guerres, les détresses, la famine et toutes ces choses s'abattent sur les nations. Cela est loin de nous de se réjouir. Personne ne peut s'en réjouir. Mais lorsque nous voyons que la parole de Dieu s'accomplit à travers tout cela avec une telle rapidité que nous avons du mal à suivre et que nous pouvons quand même la voir, nous remercions le Seigneur du plus profond de notre cœur. Non pas parce que quelque chose se passe quelque part, mais parce que la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Et nous savons, comme l'a dit notre Seigneur, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est à la porte. Plus loin, il dit ici dans Luc 21, du verset 26, en ce que les hommes abandonnent l'esprit dans la crainte et dans l'attente anxieuse des choses qui vont venir sur le monde. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27, et après cela, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. Verset 28, quand donc ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance, votre rédemption est proche. Nous devons également tenir compte de cette parole. Alors, redressez-vous. Et je veux dire que notre volonté fait partie de la volonté de Dieu. Dieu a fait connaître sa volonté, mais nous devons dire oui à la volonté de Dieu. Nous devons être prêts à mettre notre volonté dans la volonté de Dieu. Et notre Seigneur nous l'a prié à Gethsémané en disant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Et la volonté de Dieu était la rédemption de l'humanité. Et la volonté de Dieu a été accomplie par Jésus-Christ, notre Seigneur. De la même manière, la préparation, l'appel et l'achèvement de l'Église épouse sont dans la volonté de Dieu. Et nous pouvons être reconnaissants d'avoir trouvé un équilibre et de pouvoir proclamer le plein évangile de Jésus-Christ avec le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit, la guérison du corps, en fait, avec tout ce qui s'y rapporte, et de croire par-dessus le marché à la parole prophétique qui brille en ce temps comme une grande lumière dans un lieu obscur. Pierre n'a pas écrit « Vous avez l'évangile » ou « Vous avez le sermon sur la montagne » ou autre chose, mais vous avez d'autant plus fermement la parole prophétique qui brille comme une lumière dans un lieu obscur. De Pierre 1, verset 19, dans la prophétie biblique, Dieu a fait annoncer à l'avance tout ce qui fait partie de son plan de salut. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, le Seigneur révèle la parole déterminée. Il donne la lumière sur les passages bibliques qui s'accompliront à ce moment-là. Qui peut t'en vouloir à Frère Branham, qui a dit à maintes reprises et même en a fait un cantique et a parfois chanté à la fin. Il y aura de la lumière au temps du soir. Comme son cœur de prophète a dû être plein de reconnaissance envers Dieu pour voir toutes ces paroles prophétiques par illumination divine, à la lumière de la révélation divine, avec la conscience que la lumière rayonnera au temps du soir. Et je dis aujourd'hui ce que j'ai dit devant beaucoup au cours des années passées. Une lumière est faite pour que nous la fassions briller devant nous. Tout homme qui a déjà marché dans les ténèbres sait parfaitement que l'illumination n'est pas quelque part derrière nous ou que l'homme doit être ébloui par la lumière. Non, mais qu'il doit faire briller la lumière sur le chemin qu'il doit suivre. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et je dis aujourd'hui, tous ceux qui vont à l'encontre de la lumière sont aveuglés par la lumière et elle ne leur a été d'aucune utilité. Elle leur est devenue nuisible et fatale. Marcher dans la lumière, a dit notre Seigneur, tant que la lumière est au milieu de vous. Jean 12, verset 35. Et nous pouvons dire, Dieu nous a donné la lumière. Beaucoup sont allés à l'encontre de cette lumière. Et ils ont été complètement aveuglés. Au début, ils ont encore essayé de regarder à droite et à gauche. Et dans la mesure où ils étaient à nouveau confrontés à une parole éclairée, la lumière divine rayonnait par révélation divine de la parole dans les yeux de ces personnes. Au lieu de la prendre et de remercier Dieu et d'éclairer le chemin, ils ont pris position contre cette lumière et ont été aveuglés. Je pense à cet homme de Bombay en Inde qui a été un adorateur du soleil pendant 21 ans et qui est devenu absolument aveugle. Et lorsque frère Branham lui a dit cela et qu'il a aussi fait savoir qu'il était marié, qu'il avait deux enfants et qu'il s'appelait tel et tel, et qu'il était devenu complètement aveugle à cause de ses années d'adoration du soleil, tous ces chefs religieux qui avaient été appelés à invoquer leur Dieu se sont tenus là et ils sont restés aussi silencieux que leur Dieu. Mais cet homme de Dieu a pu dire, je ne suis pas ici en mon propre nom, ni au nom d'une dénomination, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Et il dit à cet homme, reçois la vue et vois. Et cet homme a vu sur le champ. Qu'est-ce que c'était? On peut même regarder la lumière jusqu'à ce qu'on devienne complètement aveugle. Complètement aveugle. Ce n'était pas le but du soleil. Et ce n'est pas le but de la lumière naturelle que les gens soient éblouis. Et pourtant, il est écrit, il est établi pour plusieurs en Israël pour se lever et pour tomber. Les deux. Les uns ont été éclairés par lui, car il est écrit, la vraie lumière resplendit. Et tous ceux qui entrent dans ce monde sont éclairés par elle. Jean 1, verset 9. Il est ensuite écrit, la lumière brillait dans les ténèbres, mais les hommes ne l'ont pas comprise. Parce qu'ils ont aimé les œuvres des ténèbres plus que les œuvres de la lumière, ils ont été aveuglés. Et lorsque le Seigneur Jésus, dans Matthieu 23, a parlé des scribes et leur a dit, aveugles, conducteurs d'aveugles, c'était un discours très dur, car ils étaient convaincus d'être éclairés et de puiser à pleine main. Que s'est-il passé? La lumière brillait et le prophète Ésaïe n'avait-il pas dit, ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort ont vu une grande lumière? Ne nous a-t-il pas dit, notre Seigneur ne nous a-t-il pas dit, le pays de Zaboulon et de Nephtali, le pays d'au-delà du Jourdain, la Galilée des nations a vu une grande lumière. De quoi s'agissait-il? L'accomplissement de la prophétie biblique. Tous ceux qui sont nés de Dieu et qui sont destinés à la béatitude, je veux dire maintenant à la première résurrection, verront la lumière de la parole révélée de Dieu et ils n'iront pas contre, mais ils marcheront avec la lumière pas à pas. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons voir le chemin éclairé. Beaucoup d'entre vous, automobilistes, vous savez ce que c'est que de conduire quelque part, peut-être sur une route étroite, dans l'obscurité, et de voir arriver quelqu'un qui tient la lumière tout entière dans vos yeux. On ne voit alors plus grand chose. Même avec la lumière de sa propre voiture, l'autre véhicule vous éblouit. Et la lumière qui vient en sens inverse a alors plus d'effet que celle que vous avez. Et je pense que Dieu veut nous donner une grande leçon à travers cela. Lorsque la lumière de Dieu vient à notre rencontre, nous devons la comprendre, éteindre notre propre machine et notre alternateur et dire, « Oh Dieu, laisse-moi marcher dans ta lumière à partir de maintenant. J'en ai fini avec ma batterie, avec mon alternateur, avec tout ce qui produit de la lumière ici. Laisse-moi marcher dans ta lumière. » Comme tu es dans la lumière. Et alors, nous sommes en communion réelle les uns avec les autres. Ça, c'est une communion de l'esprit dans la lumière révélée et les paroles de Dieu en ce temps. Tous les hommes ont une communion entre eux, chacun à sa manière. Les communistes ont leur communauté et tous les courants politiques et religieux ont une communauté internationale entre eux. Ils ont aussi leurs comités internationaux et leurs présidents. Mais l'Église du Dieu vivant est internationale, mais elle n'a qu'un seul président. Il est international, suprarégional, n'est élu par aucun comité. C'est une pierre choisie et cette pierre a été posée et tous ceux qui se heurtent à elle dans la désobéissance à la parole et tombent. Pour les uns, c'est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Pour les autres, c'est un rocher de salut. 1 Pierre 2, 8. nous comprenons que Dieu nous a fait grâce. Permettez-moi de conclure en disant que la prophétie biblique est très avancée et qu'il n'y a pas de compromis avec Dieu. Les hommes doivent toujours faire des compromis l'un avec l'autre s'il doit y avoir un terrain d'entente. Avec Dieu, il n'y a pas de compromis. Il ne viendra pas à notre rencontre en disant, bon, si vous voulez dire ainsi, ainsi, et moi aussi, ainsi, ainsi, alors nous pouvons nous rencontrer ici au milieu. Non, il n'y a qu'un seul point de rencontre avec Dieu. Et c'est à la croix, à Golgotha. Et Jésus a dit, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Et c'est là que nous avons été réconciliés avec Dieu, unis et liés pour toujours. Et nous avons reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné son sang et sa vie sur la croix à Golgotha pour la réconciliation de tous ceux que Dieu avait désignés comme siens avant la fondation même du monde. Et c'est pourquoi Jésus a dit, « Tous ceux que le Père m'a donnés viennent à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. » Jean 6, 37. « Il nous a accueillis, toi et moi, et il en accueillera d'autres aujourd'hui qui viendront à lui. » Est-ce que nous comprenons tous de quoi il s'agit? Pas seulement de dire « je suis croyant », mais de croire comme l'Écriture l'a dit, de croire ce que l'Écriture a promis pour ce temps, afin d'être ainsi en accord avec Dieu dans les moindres détails et dans les moindres détail, oui, comme le dit l'Américain, up to date, à la pointe du progrès. Nous ne sommes plus dans les années de la réformation ou dans les années des siècles passés, mais nous vivons maintenant dans le présent et devons être mis en conformité avec la parole et les promesses et le message de Dieu pour ce temps. Et par la grâce de notre Dieu, le Seigneur y parviendra avec toi et avec moi, avec nous tous. Ne perdez pas espoir, car Christ à nous est l'espérance de la gloire. Si nous étions livrés à nous-mêmes, nous pourrions enterrer l'espérance dès aujourd'hui. Mais Christ, qui est notre espérance, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour afin que nous qui étions voués à la mort puissions sortir et ressusciter avec Christ pour une vie nouvelle. Que Dieu nous révèle sa parole par son esprit de grâce. Telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Levons-nous. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour le message de joie et de délivrance, pour le message de salut, pour le message de grâce qui nous a été adressé. Et nous te remercions pour la révélation de ton esprit et de ta parole. Nous te remercions pour la lumière divine qui a resplendi en ces derniers temps. Nous te remercions pour l'accomplissement de chaque promesse que tu as accordée par grâce. Seigneur, tous ceux qui ont levé les mains pour te consacrer leur vie, que tu les touches maintenant, que tu demandes pour eux et que nous prions pour eux, Seigneur, que ta grâce s'étende sur eux de manière si puissante qu'ils sentent combien tu leur veux du bien. Tu leur veux du bien. Tu es mort pour que nous puissions vivre éternellement. Tu as souffert et tu as pris sur toi nos fautes et nos péchés afin que nous puissions sortir librement. Et c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Seigneur, touche les malades. Ils sont déjà guéris. Seigneur, nous te remercions pour l'œuvre de rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. Le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit et la guérison du corps ont été accomplis pour tous. Pour tous ceux qui viennent à toi dans la foi et qui l'acceptent pour eux personnellement dans la foi. Seigneur, que la prédication de la parole ait suscité une foi biblique et vivante dans nos cœurs afin que nous puissions maintenant expérimenter les effets de ta parole et de ta puissance. Que ta parole soit confirmée à tous ceux qui l'ont entendu et reçu dans la foi à la fin de ce service divin. Puissent les malades accepter et recevoir leur guérison, les perdus leur salut, et les fatigués et chargés leur délivrance par grâce au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour nous. Seigneur, en cette heure, confirme ta parole par des signes et des miracles qui suivent. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Puissions-nous maintenant te faire confiance du fond du cœur, car nous savons que tu es présent. Et ce n'est qu'en confirmant ta parole que ton nom sera honoré et glorifié. Mon Dieu, fais de nous des hommes qui croient, comme le dit l'Écriture, qu'à l'heure même où nous croyons, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive coulent. Seigneur bien-aimé, traverse nos rangs et témoigne de toi comme étant ressuscité, comme étant vivant, comme étant le ressuscité, le vivant, le Seigneur et roi qui est monté au ciel et qui reviendra bientôt. Je te remercie de le faire et de l'avoir déjà fait. Alléluia. Gloire et honneur à ton nom merveilleux et glorieux. Alléluia. Amen.